Il y a plusieurs années de ça, alors que j'étais pasteur dans une autre église, une femme de l'assemblée où j'étais m'avait pris en aversion et elle me faisait beaucoup de tort par ses paroles. Parce que elle me prêtait des intentions qui étaient fausses. Elle m'accusait, entre autres, d'être un manipulateur qui manipulait l'assemblée pour mes propres fins. Elle me traitait aussi dans une lettre qu'elle m'avait écrite, très blessante. Elle me traitait de menteur véhément, c'est-à-dire de mentir avec force et intensité. J'étais tellement triste de ça, mais je dirais que j'étais surtout frustré et anxieux de la situation parce que tout ça n'était pas vrai. Puis je ne comprenais pas pourquoi est-ce que je vivais ça. Vous savez, quand notre réputation, notre honneur ou notre intégrité est injustement attaquée, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, je vous le confesse, là, moi j'aime ça chialer. Me justifier aussi. Me battre pour défendre mon point. Hein? Mais c'est pas nécessairement ça qu'on doit faire. Comment est-ce qu'on doit gérer une situation comme ça? Tournez dans le psaume 4 avec moi. Et ce matin, on va voir comment David, lui, dans une situation comme ça, a réussi à se gérer lui-même, si on peut dire, pour rester en paix et pour ne pas sombrer dans le désespoir, dans l'angoisse, dans la frustration, dans quoi que ce soit. On va regarder comment David a géré ça, puis ensuite, on va voir comment on peut appliquer ça à nous-mêmes. Alors, le psaume 4. La parole de Dieu se lit comme ceci. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand je prie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Prions. Seigneur Jésus, révèle-nous ce que tu as pour chacun de nous ce matin à travers ce passage de ta parole. Ta parole est tellement précieuse, tellement riche. Et Seigneur, on y trouve ce qu'on a besoin pour que notre âme vive bien, pour que notre âme soit réconfortée, pour que notre âme grandisse et se réjouisse en toi. Et Seigneur, les difficultés font partie de la vie, puis on ne sait pas toujours comment gérer ça. Et parfois même, bien, on gère ça mal. Et pardon pour ça. Et ce matin, Seigneur, dans la portion des Écritures qu'on va ouvrir, qu'on va regarder ensemble, parle à nos cœurs, à nos âmes, à chacun. Et que ton nom soit glorifié à travers nos vies, même à travers nos épreuves, Seigneur Jésus. Parce qu'on a reçu les gérer comme des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Le psaume 4 nous montre comment David se sentait devant sa réputation qui était attaquée, son honneur qui était sali. Vous savez, des mauvaises paroles, ça fait parfois plus mal qu'un coup de poing ou qu'un coup de pied. Puis l'effet d'une mauvaise parole peut durer plus longtemps aussi. Et ça peut créer de l'anxiété ou d'autres sentiments du genre, de l'angoisse, de la frustration, etc., etc. Ici, le texte ne dit pas que David était anxieux. Et moi, je ne suis pas médecin, là, alors je ne veux pas poser un faux diagnostic. Là. Mais en essayant de comprendre comment David pouvait se sentir, j'ai regardé des définitions et je crois que l'anxiété, ça reflète pas mal ce qu'on voit dans le texte. Le dictionnaire Larousse, avec mon ami Chat, dit que l'anxiété désigne un état d'inquiétude profond, mêlé de tensions nerveuses, souvent liées à l'anticipation d'un danger ou d'un problème. Moi, je trouve que ça ressemble à ce que David vivait. Puis si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave, parce que l'important, ce n'est pas de diagnostiquer David. C'est de voir comment il a vécu ça et comment il l'a géré pour réussir à s'en sortir. Alors, je vais utiliser pendant le message le mot « anxiété », mais ça peut être autre chose. C'est le principe ici qui est important, ce n'est pas le point « anxiété » en tant que tel, mais pour faciliter, je vais utiliser ce terme-là. Donc, l'important, c'est de voir comment David a géré ça et comment on peut l'appliquer à nous-mêmes. Au verset 3, David dit « Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? » Certaines versions vont traduire par « Jusqu'à quand salirez-vous mon honneur? » Ce que David vivait ici, c'était probablement dû aux médisances, aux calomnies, aux mensonges que lui faisait subir Absalom et les gens qui étaient avec lui. Et bon, moi je lis ça avec la révolte d'Absalom, comme le psaume 3. Certains commentateurs vont dire que c'est d'autres circonstances, peut-être. Mais le point là, c'est à retenir, c'est l'attitude de David ici. Peu importe la circonstance. David ne s'est pas renfermé sur lui-même à se victimiser puis à ruminer sans cesse l'injustice qu'il vivait. Ça, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai tendance à faire ça. Puis je prie pas mal que le Seigneur me corrige de ce trait-là, parce que dans le fond, ça ne sert à rien. Se victimiser puis ruminer sans cesse ce qui nous arrive, c'est autodestructeur. Ça nous fait du mal. David, au lieu de faire ça ici, je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, là, pas en tout, mais on voit que son premier réflexe a été de se tourner vers Dieu dans la prière et la supplication pour y trouver l'apaisement que son âme avait besoin. Et ça, c'est important. Vous connaissez peut-être bien l'histoire de l'oreiller de plume. Un jour, un pasteur voulait reprendre une dame à cause de sa calomnie et de sa médisance. Il voulait lui montrer que le mal qu'elle faisait pouvait se répandre partout. Alors, il a monté avec elle sur le toit de l'église en apportant un oreiller de plume. Il a déchiré l'oreiller et l'a vigoureusement secoué, de sorte que les plumes ont sorti et se sont répandues aux 80. La dame, étonnée, lui demandait qu'est-ce qu'il faisait. Mais il dit, « Mais ma chère dame, ramassez les plumes maintenant. » Ben, elle dit, « Je peux pas, c'est impossible. » Ils sont partis aux 80. Ben, il dit, « C'est exactement ce que je voulais vous faire réaliser. » C'est ce qui se produit quand on fait de la calomnie et de la médisance. Ça se répand aux 80, puis on ne peut plus rattraper ça. La réputation de David ici était entachée et ça se répandait partout. Et David ne pouvait rien faire pour rattraper ça. Il ne faisait que subir cette injustice-là et cette calomnie. Mais Dieu, lui, si David ne pouvait rien faire, Dieu, lui, pouvait faire quelque chose. Dieu pouvait changer la situation et il pouvait aussi calmer l'angoisse ou l'anxiété de David. Quand quelqu'un attaque notre réputation ou notre intégrité, notre premier réflexe, c'est souvent de lever le poing puis de se justifier. Puis vous savez, moi, des fois, là, quand ça m'arrive, là, j'ai envie de dire comme Jacques et Jean l'ont fait en Luc 9, 54, « Seigneur, veux-tu que je commande le feu du ciel et qu'il les consume? » Mais ce n'est pas ce qu'on doit faire. Ce n'est pas ce qu'on doit faire. Devant la situation ici, David a fait quelque chose de beaucoup plus sage que ça. Il a fait ce qu'il avait de mieux à faire. Il a prié. Est-ce qu'on a ce réflexe-là de prier quand ça va mal? Ben,
Généralement, oui, parce que c'est souvent quand ça va mal qu'on est le mieux enclin à prier puis à demander au Seigneur d'intervenir puis faire quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on commence par prier ou est-ce qu'on commence par chialer? Je ne sais pas si David a chialé avant de prier, peut-être, le texte ne le dit pas, mais je crois qu'on devrait toujours prier avant de chialer, parce que chialer, là, ça ne change pas grand-chose. Ça change rarement la situation. Ça peut faire du bien sur le moment, mais ça ne change rien. Alors, que la prière, elle, peut changer les choses. Dans un livre que j'ai lu il y a quelques années, il m'est revenu une citation là, cette semaine de l'auteur qui disait « Par la prière, nous pouvons mettre en mouvement la puissance de Dieu. Car dans la prière, nous demandons à Dieu d'accomplir ce que nous ne pouvons faire. » Et c'est ce que David a fait ici. Il a imploré le secours de l'Éternel par 4 supplications. Regardez verset 2. « Réponds-moi. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. » David, au lieu de chialer, a supplié le Seigneur de faire quelque chose pour lui. Et il a bien fait parce que Dieu était le seul qui pouvait véritablement rattraper les plumes. Alors, David a répandu son cœur devant celui qu'il appelle au verset 2, le Dieu de ma justice. Et je crois que c'est ce qu'on devra faire, nous aussi, de toujours commencer par prier avant de chialer. Puis étrangement, quand on prie, ben, on a moins le goût de chialer après. Répandre notre cœur devant Dieu, ça change les choses parce que lui peut non seulement faire un retournement de situation, arranger la situation, bon, il fait ce qu'il veut, mais il peut aussi apaiser notre âme. Et ça, c'est important. Parce que ce que l'on vit en dedans, là, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile, puis des fois c'est atroce, c'est horrible. Mais Dieu peut faire quelque chose pour apaiser notre âme, lui. Que ce soit à cause d'une injustice, d'une calomnie, de médisance ou pour n'importe quelle autre raison, apprenons à faire confiance à Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce que je vais dire, là, mais apprenons à faire confiance à Dieu parce qu'il sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Vous avez déjà entendu ça quelque part. Hein? Dieu sera toujours plus grand que le plus grand de nos problèmes. Alors, laissons-le s'occuper de ce qui nous échappe. Un jour, il y a longtemps de ça, un pasteur anglophone m'avait dit, « Make your problem becomes God's problem. » Fais que ton problème devienne le problème de Dieu. Et je crois que de laisser Dieu s'occuper de notre problème, c'est parfois le véritable moyen de s'en sortir. Et souvent le seul. Dans sa prière, après s'être adressé à Dieu, David, c'est comme si, là, il répand son cœur devant l'Éternel, puis tout d'un coup, il pense à ses ennemis. Il pense à ceux qui le calomnient, qui le salissent sa réputation. Et on dirait qu'il imagine là, que tout d'un coup, ils sont là devant lui, et là, il leur parle. Verset 3. « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? » Pause. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Pause. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. Les ennemis de David outrageaient sa gloire, c'est-à-dire qu'ils salissaient sa réputation, ils le calomniaient, ils parlaient de lui en mal, et tout ça était en relation, dans le contexte, en relation directe avec sa position de roi d'Israël. Parce qu'il l'accusait, comme on a vu il y a 3 semaines dans mon message précédent, il l'accusait d'avoir usurpé la royauté de Saül. Et on avait vu ça en 2 Samuel 16, suite à la malédiction de Chiméi. Mais Absalom aussi, avant de faire son coup d'État, avait commencé à parler en mal de son père. Et il avait débuté une campagne de salissage. En 2 Samuel 15, on peut lire ceci. Absalom se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi, vers David, pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait. Il lui disait, « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait, « Ah, qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation ou un procès viendra à moi et je lui ferai justice. Hein? » David, c'est un pas bon. David n'est pas compatissant avec vous autres. Mais moi, Absalom, moi, par exemple, je prendrai pour vous autres parce que votre cause est juste. Absalom commençait à salir la réputation de David, à miner sa crédibilité auprès des gens. Et Shimei, comme on avait vu il y a 3 semaines, il disait que c'était un homme de sang, un homme méchant qui avait usurpé le royaume à Saül. Alors, quand ça part, là, c'est comme des plumes aux 80. Ça se répand partout, puis on n'a plus le contrôle. Et devant cette campagne de salissage menée par Absalom ici, bien, David réplique au verset 4. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. Je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas là parce que j'ai usurpé la royauté à Saül. Je suis là parce que Dieu m'a choisi et c'est lui qui m'a mis en place. Alors, le terme choisi sous-entend ici dans le contexte. Choisi pour être roi. Alors, malgré tout ce que ses ennemis peuvent dire, David, lui, il sait en dedans de lui-même qu'il a l'approbation de Dieu. Et ça, là, ça le rassure. Vous savez, ce que les gens pensent, là, ce que les gens disent, ça fait mal. Mais ce que Dieu pense de nous, là, ça peut faire un très grand bien. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit se concentrer. Puis écoutez, si on a quelque chose à confesser, il faut le confesser. On est pécheurs, nous autres aussi. Là. Puis c'est pas vrai que les autres ont tout le temps tort puis que nous autres, on a tout le temps raison. Mais si on a quelque chose à confesser, bien, confessons-le. Même si on a couru un peu après la calomnie, la médisance et tout ça, ça se peut des fois qu'on ait été un peu l'artisan de notre propre malheur, mais si c'est le cas, tombons à genoux, frères et sœurs, devant le Seigneur, puis confessons notre péché. Puis ensuite, rassurons-nous parce que Dieu pardonne quand on confesse nos péchés. Et si on n'a pas de péché, ou si on en avait et qu'on l'a confessé, bien, dans les deux cas, on devrait se tourner vers l'Éternel et le supplier de rassurer notre âme. Lui peut faire ça. C'est en lui qu'on doit trouver notre sécurité, qu'on doit se fortifier. C'est en l'Éternel qu'on doit trouver la justification qu'on a besoin pour être clean devant lui. C'est le Dieu de ma justice, c'est ce que David disait. Pas parce qu'on est sans tâche, quand je parle de justification, mais parce que la justice de Christ, quand elle est appliquée à nous, ça change tout. Ah oui, on est des pécheurs, mais Christ a payé le prix pour nous. Puis on pêche encore. Puis Christ nous pardonne quand on confesse nos péchés, parce qu'il est fidèle et juste pour le faire. Et ça devrait nous rassurer, ça devrait nous fortifier, ça devrait nous donner cette confiance en l'Éternel que peu importe ce que les autres vont faire ou ce que les autres vont dire, moi j'ai l'approbation de Dieu. Ça fait un grand bien, ça peut faire toute la différence. Alors d'une certaine façon, David ici est en train de dire à ses ennemis, arrêtez de faire ce que vous faites, ça ne sert à rien, parce que Dieu est avec moi, c'est Dieu qui m'a choisi. Puis ça, là, vous ne me l'enlèverez pas. Alors, on voit qu'il y a comme une transition dans le psaume. Au début, David, qui était anxieux, se tourne vers l'Éternel et après avoir lancé un cri du cœur vers celui qui, nous dit Éphésiens 3:20, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, bien, David commence à ressentir la sécurité et la paix qu'il était venu chercher auprès de Dieu. Il va dire avec conviction à la fin du verset 4, « L'Éternel entend quand j'écris à lui. » Êtes-vous convaincu que l'Éternel entend quand vous criez à lui, frères et sœurs? C'est important. C'est important parce que si l'Éternel ne vous entend pas, là, vous n'êtes pas entre bonnes mains. Mais l'Éternel nous entend. Alors, laissez pas le doute vous envahir. Oh, je ne sais pas si Dieu m'entend. Oui, oui, Dieu nous entend. Dieu nous a rachetés. Dieu est avec nous. Son esprit habite en nous. Dieu nous entend. Et laissez faire les autres qui pourront dire, ah, Dieu t'a abandonné, comme c'est arrivé à David dans le psaume 3. L'Éternel l'abandonne. Non, Dieu ne nous abandonne pas. Ça devrait être rassurant. Peu importe ce qui nous arrive, c'est en l'Éternel qu'on doit se rassurer, se fortifier et trouver notre justice. Parce que c'est lui qui justifie. Je crois que cette affirmation que David fait ici, l'Éternel entend quand je crie à lui, dans le contexte et dans l'esprit du passage, on peut dire, je crois que c'est à la fois une déclaration rassurante pour David, mais aussi un appel à la repentance à ses ennemis. Repentez-vous parce que Dieu est avec moi. C'est moi qui ai choisi. Puis il m'entend. Oui, il y a comme, oui, ça le rassure, puis il appelle ses ennemis à se repentir en même temps. Alors, David est passé de l'anxiété à la paix parce qu'il a trouvé sa sécurité en Dieu. Alors, ne doutant plus que Dieu soit avec lui, David, maintenant plein d'assurance, appelle directement ses ennemis à se repentir. Regardez les versets 5 et 6. « Tremblez! L'Éternel entend quand je crie à lui. Alors, tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Pause. « Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous en l'Éternel. » Autrement dit, là, vous savez que Dieu est avec moi. Alors, cessez de me faire du mal et ayez la crainte de Dieu. Ça me fait penser à ce que l'apôtre Paul va écrire 1000 ans plus tard dans Romains 8, 31. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Ceux que Dieu a choisis ne seront jamais éloignés de son amour et de sa protection. Et ça, c'est vrai autant pour les épreuves de cette vie que pour ce qui concerne l'assurance du salut. Est-ce que Dieu nous abandonne dans nos épreuves? Non. Oh, bien, nous autres, on voudrait bien sûr qu'on crie à l'Éternel, puis que tout s'arrange, là, puis qu'on continue à... Mais Dieu permet l'épreuve, c'est normal, il la permet dans nos vies, parce qu'il y a toutes sortes de raisons pour ça. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Puis pour ce qui est de l'assurance du salut, c'est la même chose. C'est une fausse doctrine très populaire que l'on peut perdre ou délaisser notre salut. Mais c'est un gros mensonge. Ce que Jésus-Christ a fait, c'est parfait, c'est complet, c'est irrémédiable, et c'est lui qui nous garde. Si lui ne nous gardait pas, oui, on pourrait perdre notre salut, mais c'est lui qui nous garde. Alors, soyez pas troublés dans votre âme. Ce que les gens peuvent essayer de vous dire, de vous mettre dans la tête, ou ce que vous pouvez vous raisonner en vous-même par rapport à ça, oubliez ça. Oubliez ça. Vous êtes en sécurité dans les mains de Dieu. Alors, chrétiens, peu importe la situation qui vous rend anxieux, angoissé, frustré, etc., n'oubliez pas que si vous êtes sauvé, c'est parce que Dieu vous a choisi. Louis-Philippe en a parlé ce matin. C'est parce que c'est Dieu qui nous a choisis. Alors, comme c'est lui qui nous a choisis, il va nous garder en sécurité sans jamais faillir. C'est pas extraordinaire, ça? Je peux-tu avoir un amen là-dessus? J'ai l'impression que vous dormez. Dieu ne nous enlèvera peut-être pas nos épreuves, c'est même rare qu'il le fait, mais quand on crie à lui, il sait nous fortifier et nous donner la paix qu'on a besoin pour passer au travers de cette épreuve-là et être capable de la supporter au point d'en venir à dormir sur nos deux oreilles. Car l'Éternel entend quand on crie à lui. Puis ceux qui nous font du mal, là, tôt ou tard, ils vont avoir affaire à Dieu s'ils ne se repentent pas. Alors, frères et sœurs, déposons ce qui nous afflige au trône de la grâce et attendons-nous à Dieu pour être secourus dans tous nos besoins. Et moi, je trouve que ce psaume-là, dans ce qu'on vient de voir, il y a un beau parallèle entre David et Jésus. Parce que quand je regardais le texte, je me dis, ça pointe vers la croix. C'est un texte qui pointe vers la croix de Christ. Vous savez, le Seigneur Jésus aussi, il est roi. Il est le roi des rois. Et c'est à lui que Dieu le Père a donné le règne, la force, la puissance et l'honneur. Et pourtant, la plupart des gens le rejettent, le méprisent, le calomnient. Et ça, ben, c'est un outrage, c'est une insulte à la gloire de Dieu. Relisons ensemble le verset 3 comme si ces paroles-là sortaient de la bouche de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix en train de souffrir. On a pris le repas du Seigneur ce matin, Jocelyn en a parlé. Jésus a souffert sur la croix, il a été brisé dans son corps, il a été humilié. Et il a tout fait ça pour nous sauver. Et pourtant, la plupart des gens le méprisent. Relisons le verset 3, puis essayons d'imaginer, c'est pas ça que le texte dit, là, mais je fais un parallèle. Essayons d'imaginer Jésus qui dit, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? » Jésus est mort pour accomplir notre salut, mais la plupart des gens le rejettent parce qu'ils lui préfèrent la religiosité, la philosophie humaine ou même l'athéisme. Pourtant, tout ça n'est que mensonge et blasphème devant Dieu. Parce que de préférer la religion à Jésus, c'est un blasphème. C'est un blasphème parce que c'est d'affirmer devant Dieu qu'on est capable de se sauver tout seul et qu'on n'a pas besoin de lui. Parce que c'est ça que font les religions. Accomplis ta religion. Fais-la comme il faut. Manque pas. Fais ceci, fais cela. Goûte pas ci, mange pas ça. Fais pas ça, va pas là, va pas là. Donc, les œuvres, la religion nous appelle à faire, à faire, à faire, à faire par nous-mêmes. Et on en devient, parce qu'on est humain, on en devient orgueilleux. Ah, c'est beau la piété religieuse, mais c'est une insulte à Dieu. Parce que c'est de dire au Seigneur, « Écoute, Seigneur, c'est correct là, ce que tu as fait sur la croix, c'est le point de départ, mais regarde, ma religion va me sauver, je suis capable, je n'ai pas besoin de toi. » Si on veut être honnête, c'est ça les religions. Parce que quand on dit aux gens, « Viens à Christ », non, 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 j'ai déjà ma religion. Est-ce que c'est ce que tu penses? Est-ce que toi qui es là ce matin dans la salle ou même à l'écran, sur Internet, est-ce que c'est ce que tu penses? Tu n'as pas besoin de Jésus parce que tu as déjà ta religion? Sache que c'est une insulte à Dieu. C'est un outrage à la gloire de Dieu. En Matthieu 17, alors que Jésus était sur une montagne avec ses disciples, la voix du Père s'est fait entendre pour authentifier le Fils, Jésus comme étant le Seigneur et le Sauveur du monde. Et remarquez bien les deux derniers mots. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Alors, on doit écouter ce que Jésus affirme ici. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La religion ne vous mènera pas au ciel. La religion va flatter votre orgueil si vous la faites, si vous la faites bien. La religion va mettre un obstacle entre vous et Dieu. Parce que vous refusez le seul chemin qui mène au ciel, donc Jésus-Christ à la croix. C'est un outrage, pas nécessairement mal intentionné. J'ai déjà dit ça à quelqu'un, mais il me disait, « Ben là, tu méprises, Non, non, c'est pas ça, tu as le droit de savoir, il faut que tu le saches. C'est pas ta religion qui va te mener au ciel, c'est Jésus. Alors si tu refuses Jésus, tu vas mourir avec ta religion puis dans tes péchés. Jésus, c'est le seul chemin qui mène au Père. Alors, si ce n'est pas déjà fait, viens à lui. Viens à lui maintenant, ce matin. Si tu persistes à vouloir être sauvé par ta religion ou quoi que ce soit d'autre, ou même si peut-être que tu ne cherches pas du tout à être sauvé, là, tu dis, ah, moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois, quand je lui avais demandé, tu vas aller où, mais que tu meurs? Ah, il dit, il m'enverra ce qu'il veut. Quelle parole insensée! Quelle parole insensée! l'œuvre de Christ à la croix est la seule chose qui nous offre le salut de Dieu. Et si on le refuse, eh bien, on outrage la gloire de Dieu. On va rester perdu dans nos péchés et on va être en enfer pour l'éternité. Le salut, là, c'est un don et une grâce de Dieu. Puis on l'obtient seulement par la foi en Jésus. Je vous ai déjà raconté, mais je ne peux pas être sans penser à cette dame, il y a quelques années, que j'évangélisais, qui était à genoux devant moi, une dame de peut-être autour de 70 ans. Elle était à genoux par terre, puis elle frappait ses poings, avec ses poings le sol, puis elle pleurait. Puis elle dit, oui, je veux être sauvée, mais pas par Jésus! Puis elle frappait ses poings à terre. Elle est partie comme ça, enragée. Parce que oui, elle voulait être sauvée, on avait longuement parlé, mais elle ne voulait pas être sauvée par la croix de Christ. Faites pas cette erreur. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Peut-être que là, vous dites, oui, oui, mais dans ma religion, c'est Jésus. Oui, mais ici, là, il n'est pas dit que le salut s'obtient par une religion, mais par un nom, celui de Jésus. Et il n'y en a pas d'autre. Et en Jean 3,36, la Bible nous dit, « Celui qui croit au Fils, pas à une religion, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, elle est déjà là, la colère de Dieu. L'attente, en attendant la mort, où là, ça va prendre son plein effet. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, la colère de Dieu plane déjà sur toi. Évite-la. Et le seul moyen de l'éviter, c'est Jésus. Viens à lui. Viens à Jésus. Donne-lui ta vie. Relisons maintenant le verset 5. Comme si c'était Jésus qui parlait encore une fois. Tremblez et ne péchez point. Donc, parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. Le texte nous appelle à avoir une crainte de Dieu. Une crainte de l'Éternel. Alors faisons, comme il est écrit, il y a une pause, faisons justement une pause pour réfléchir. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Parce que sinon, la parole de Dieu te dit, tremble et ne pêche point. C'est-à-dire, aie une crainte respectueuse de Dieu qui t'appelle à te tourner vers lui pour être sauvé. Ne le rejette pas. Dieu t'appelle à te repentir de tes péchés et de l'orgueil qui te pousse à vouloir être sauvé par autre chose que l'œuvre de Christ à la croix. Viens à Jésus. Viens à Jésus avec foi en lui et avec repentance aussi, parce que c'est ce qu'il faut pour être sauvé. Trop souvent, le salut est prêché sans repentance, mais ça fait des fausses conversions. Oui, mais Jésus est amour. Oui, oui, Jésus est amour, oui. Mais Jésus est juste aussi. Et dans sa justice, le prix, le salaire, la conséquence du péché doit être payé. Et pour ça, elle doit retomber sur Jésus. Mais pour le recevoir, nous, il faut se repentir. Donc, l'idée, ce n'est pas juste de venir à Jésus parce que c'est un bon Dieu qui nous sauve. Oui, c'est vrai, mais ça prend la repentance aussi. Si on ne regrette pas sincèrement notre vie de péché, nos attitudes et tout ce qui vient avec, on ne peut pas recevoir le pardon de Dieu. Dieu pardonne avec une réelle repentance. En Acte 20, l'apôtre Paul dit ceci. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous annoncer publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs, donc à tout le monde, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Il n'y a pas de salut sans repentance et sans la foi en l'œuvre de Christ à la croix, il n'y a pas de salut non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin dans cette salle ne s'est pas prosterné au pied de la croix où Christ a accompli le salut? Peut-être que tu désires être sauvé dans ton cœur puis tu ne sais pas comment faire, ou peut-être que tu penses être correct, mais viens à la croix. Peut-être que c'est la première fois que tu entends ça. Peut-être que ça fait des années que tu entends ça. Il y a toujours des gens dans les églises qui sont là, mais qui n'ont pas pleinement saisi ce que c'est. Ou peut-être que vous êtes d'une famille chrétienne, vous avez grandi à l'école du dimanche, vos parents vous enseignaient tout ça, mais que vous n'avez jamais fait ce pas-là par vous-même. Fais-le maintenant, ce matin. C'est le temps. Reçois Jésus comme ton sauveur, avec repentance et avec foi. Confesse tes péchés, regrette-le sincèrement et demande à Jésus de te les pardonner. Puis c'est quoi? Si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sois sincère envers lui. Fais de Jésus ton sauveur ce matin. Puis réjouis-toi parce que si ça arrive, c'est qu'il t'avait déjà choisi d'avance. Quelle grâce extraordinaire! C'est Dieu qui nous choisit. On est privilégié. On ne fait rien pour le mériter. Dieu s'est choisi, un homme, une femme, pieuse. C'est ce qu'il fait quand il nous appelle à lui pour le salut. Lisons les versets 7 à 9. Plusieurs disent, « Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moût. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Est-ce que tu es en sécurité? As-tu donné ta vie à Christ? L'as-tu reçu comme sauveur? Fais-le maintenant. Fais-le maintenant, n'attends pas, et tu vas être en sécurité. Dans les mains de l'Éternel. Et tu vas pouvoir te coucher et dormir en paix, sachant que quand la mort va frapper, tu vas être prêt. Parce que tes péchés auront été pardonnés. Je t'invite à le faire maintenant si tu ne l'as pas déjà fait. Je t'invite à le faire maintenant. Je laisse quelques instants juste pour vous laisser rentrer en vous-même puis vous prosterner devant le Seigneur. Seigneur Jésus, si quelqu'un ici dans cette salle ou qui nous regarde sur Internet n'a pas fait de toi son sauveur et Seigneur, amène-le à le faire maintenant. Attire-le à toi, Seigneur Jésus, avec foi et repentance, afin qu'il te donne sa vie, qu'il ou qu'elle te donne sa vie, et qu'il puisse se sentir en sécurité dans les bras de l'Éternel et dans sa demeure. Amen. Alors, les gens qui étaient avec David avaient hâte de voir la lumière au bout du tunnel, et c'est sans doute à eux que fait référence le verset 7 ici. Plusieurs disent, c'est qui ça, plusieurs? Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Bien, moi je pense que c'est les gens qui étaient avec David. David se ressaisit par la confiance qu'il a trouvée en Dieu, et là il va dire, fais lever sur nous, donc sur lui et sur les gens qui sont avec lui. Ceux qui disent, fais-nous voir la lumière au bout du tunnel. Là. Donc, fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Ça démontre la foi de David qui était convaincu qu'après l'épreuve, de grandes bénédictions allaient suivre. Et c'est souvent ce qui arrive. Souvent, quand on est éprouvé, eh bien, c'est difficile, c'est dur, mais Dieu nous bénit après, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas une promesse de Dieu que je suis en train de vous dire, mais c'est quelque chose qu'on peut constater, qu'on peut remarquer. Parfois, quand l'épreuve est dit, et je crois que souvent la bénédiction est égale à l'épreuve. Donc, plus l'épreuve est difficile, plus la bénédiction est grande. Moi, je crois ça. Et David espérait ça. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé plus tard. David, Dieu va rétablir David comme roi, il va s'occuper d'Absalom et tout ça, mais aussi à plus court terme, regardez, pendant que David fuyait, ce que nous dit 2 Samuel 17. Lorsque David fut arrivé à Mahanaïm, Shobi, fils de Nabash, de Rabba, des fils d'Ammon, Makir, fils d'Amiel, de Lotbar, et Barzilaï, le Galaadite, de Roglim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves, des lentilles, des pois rôtis, du miel, de la crème, des brebis et des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent. car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue et de la soif dans le désert. Wow! L'Éternel est compatissant quand on crie à lui. L'Éternel entend quand on crie à lui. L'Éternel a ses yeux sur nous, même si des fois on a l'impression que ce n'est pas le cas. Oui, mais Seigneur, c'est injuste ce que je vis. Oui, mais Seigneur pourrait nous répondre, tu penses-tu que je n'en ai pas vécu de l'injustice, moi? Le Seigneur nous bénit parce qu'il veut nous montrer qu'il prend soin de nous. Et c'est effectivement, le Seigneur prend soin de nous. Il nous bénit de toutes sortes de façons. Bon, ici, on parle de bénédiction matérielle, mais ça peut être tellement autre chose que ça. Donc, la paix intérieure que procure la confiance en Dieu à David est plus grande pour David que toutes les joies matérielles et éphémères de ce monde. Alors, au verset 8, il dit, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur moût. » Alors oui, les gens sont parfois bénis. Mais Seigneur, comment ça se fait que moi, là, j'essaye de marcher droit avec toi, puis les autres, ils marchent tout croche. Puis moi, je souffre, je manque peut-être de certaines choses matérielles. Puis eux, ils prospèrent. Comment ça se fait, Seigneur? Mais ça, il y a d'autres textes qui disent qu'un jour, ça va les rattraper, là. Mais si ce n'est pas dans cette vie, ça va être dans l'autre. Mais quand on regarde aux autres, là, on est déprimé. C'est à nous qu'il faut regarder dans le sens que, qu'est-ce que Dieu fait pour moi? Et là, c'est David dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Vous savez, Jésus plus rien égale tout. Alors, mieux vaut souffrir avec Jésus que d'être dans l'abondance avec le diable. La joie du Seigneur qui est en nous, là, c'est indescriptible, c'est divin, c'est miraculeux. Et on ne peut pas se l'approprier tout seul, c'est Dieu qui la met en nous. Alors c'est pour ça qu'il faut crier à lui, puis continuer d'espérer en lui. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont. Oh, finalement, là, Seigneur, je m'en sacre pas mal de leurs affaires. Parce que moi, là, je suis avec toi, j'ai ton approbation. Puis c'est toi qui me... Puis si tu permets mon épreuve, Seigneur, ben tu vas prendre soin de moi. Puis un jour, tout va s'arranger. David a de la joie parce qu'il réalise que d'appartenir à Dieu, c'est plus merveilleux que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Dieu n'a pas changé tout de suite la situation qui rendait David anxieux, mais il l'a fortifié pour qu'il tienne bon. Et ça, ça lui a donné, comme il dit, la joie, la paix et la sécurité. On voit ça au verset 8 et 9. Donc, d'une certaine façon, David était passé de l'anxiété à la paix parce qu'il se sentait maintenant en sécurité sous le regard bienveillant de Dieu. La situation que j'ai vécue, que je vous ai racontée tantôt, au début, la situation avec cette dame, c'est une situation qui a duré longtemps puis qui empirait sans cesse. Ça rempirait tout le temps, puis ça grossissait, puis ça semblait être sans issue. Et les semaines, les mois, les années ont passé, puis ça ne s'arrangeait pas. J'en ai été affecté au point que j'ai dû sortir en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Et pendant tout ce temps-là, je faisais des prières semblables à celles de David dans les supplications. Je t'en supplie, Seigneur, écoute-moi. Vois ma misère. Vois mon injustice. Calme mon anxiété. J'étais tellement anxieux que la nuit, je me réveillais puis je devais réveiller Nathalie parce que j'avais les poings fermés, pas capable de les ouvrir. Nathalie devait m'aider à m'ouvrir les doigts. C'était la même chose avec mes dents. J'étais serré, serré, j'étais crispé. J'étais totalement angoissé. J'en ai passé des soirées à pleurer, des nuits blanches à ruminer tout ce mal-là qu'on me faisait. À chercher la cause de ça. À crier à Dieu, « Seigneur, j'invoque le feu du ciel qui descende et qui la consume. » Mais Dieu, ce n'est pas ça qu'il a fait. La situation ne changeait pas, puis moi, ben, je trouvais ça injuste. Mais le Seigneur était quand même au contrôle de la situation et pour me montrer que j'étais en sécurité malgré tout auprès de lui, il m'a envoyé un texto. Avez-vous déjà reçu un texto de la part de l'Éternel? C'est arrivé deux fois dans ma vie. Et je vous explique. Cette fois-là, on était un matin, on était assis dans le salon, puis Nathalie puis moi, puis là, on parlait, puis là, je rageais, puis je me plaignais, puis je chialais, puis bon, tout ça, là. Puis je faisais des supplications à Dieu, puis que je trouvais ça tellement injuste. Puis Nathalie était abonnée à ce moment-là à un site chrétien qui lui envoyait à chaque jour sur sa tablette des notifications. C'était soit des pensées, des belles pensées, ou des versets bibliques. Et ce matin-là, alors qu'on était en train de parler puis de prier ensemble la situation, puis que je chialais, puis Nathalie essayait de m'encourager, puis ça ne marchait pas, j'étais beaucoup affligé, anxieux, frustré et découragé au point que j'avais résolu d'abandonner le ministère puis de passer à autre chose. Et là, la tablette de Nathalie a sonné. Ping! C'est celle, c'est des notifications. Hein? Alors, elle l'ouvre, puis elle regarde ce que c'était, puis elle est restée comme figée, silencieuse. Et puis là, elle est venue, les larmes aux yeux. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle tourne sa tablette vers moi pour que je puisse lire. C'était écrit sur la tablette en grosses lettres. Je vous le dis littéralement. Dieu est plus grand que la tempête que vous vivez présentement. Wow! Je ne sais pas si vous savez, mais ça a changé mon mood, là. Ça a changé là, ma façon, mon état d'esprit. J'ai été comme frappé. C'est comme si Dieu m'avait dit, écoute, c'est pas drôle ce qui t'arrive, j'en conviens, là, mais... Tu t'en vas où comme ça, Tony? Là? Tu dis toi-même souvent, parce que je le faisais déjà à l'époque, que Dieu est plus grand que le plus grand de nos problèmes. Allô? T'en souviens-tu? Dieu est plus grand que la tempête que vous vivez présentement. Je l'ai eu d'un dent. Mais ça m'a fait tellement bien. Merci Seigneur pour ça. Oh, peut-être que vous allez penser que ça, c'était le hasard. Non, ça arrive, c'est le hasard. Ben, non, parce que le hasard n'existe pas dans ma vie. Je pourrais peut-être dire que c'était hasardieux, mais ce n'était pas le hasard. C'était hasardieux, parce que c'est Dieu qui était derrière ça. Parce que à l'instant où j'ai lu ça, j'ai compris que Dieu voulait me rassurer et m'apaiser en rappelant à mon âme que mon Sauveur veillait sur moi au quotidien, dans mon épreuve, et qu'il serait effectivement toujours plus grand que le plus grand de mes problèmes, et qu'il y était au contrôle. Chrétien, aujourd'hui, demain, et à chaque jour de notre vie, apprenons à faire confiance à Jésus un jour à la fois. Un jour à la fois, parce que Jésus lui-même a dit en Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Moi, j'aimerais rajouter à ça, après, à chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour suffit sa grâce. Parce que Dieu prend soin de nous. La vraie sécurité, vous savez, là, et la vraie paix ne consiste pas en l'absence de danger ou d'épreuve. Elle consiste dans l'assurance, bien ancrée au fond de notre âme, que Dieu veille sur nous, quoi qu'il arrive. Et soyons assurés d'une chose, frères et sœurs, c'est que la volonté de Dieu ne nous amènera jamais là où sa grâce ne nous protégera pas. Je répète ça. La volonté de Dieu ne nous amène jamais là où sa grâce ne nous protège pas. C'est en réalisant ça qu'on va pouvoir, nous aussi, passer de l'anxiété à la paix par celui qui nous fortifie. Et qu'on va pouvoir dire, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, est la sécurité. La prochaine fois qu'on va être anxieux, inquiet, angoissé, victime de médisance, de calomnie, etc., commençons par prier avant de chialer. Puis peut-être même chanter ce petit chant, hein? Vous le connaissez, je suis certain. Compte les bienfaits de Dieu. Chante avec moi. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est ça la vraie tranquillité d'esprit. Et je termine par ce magnifique passage rassurant de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. En Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ce magnifique passage qu'on a vu ce matin, le psaume 4, qui, à première vue, semble déprimant, mais qui, quand on le creuse un peu, est tellement rassurant, tellement réconfortant. Et Seigneur, comme David l'a été, quand nous serons dans l'angoisse, fais comme tu as fait pour lui. Montre-nous que c'est en se tournant vers toi qu'on peut passer de l'anxiété ou de l'angoisse à la paix. Parce que toi seul peux réellement nous fortifier et faire du bien à notre âme. Seigneur Jésus, bénis ta parole dans nos cœurs et sois loué en toutes choses. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen.